France Inter. Avec cette émission, j'ai voulu retourner à la base, le début du début du début de ce qui fait de nous, les humains que nous sommes, un plaisir fou et nécessaire, celui de se raconter des histoires comme on le faisait quand on était petit, et même avant qu'on ne soit né au coin du feu, au bord du lit. Salut papa, et puis bonne nuit. Alors il y aurait des héroïnes et des héros, nos personnages principaux. Au départ, ça se joue serré. Il y a des obstacles à surmonter, des montagnes à escalader et puis des ressources à trouver, mais des alliés sur leur chemin. Et à la fin, ça se termine bien, émancipés et libérés. Voilà des êtres prodigieux qui ont réussi à foutre le feu à la norme, au cadre, au système, ont tout pété et disent « je t'aime ». En fait, c'est des super-héros, super-héroïnes d'aujourd'hui. Le super-pouvoir, c'est celui d'avoir su faire depuis la marge, bouger le centre, le déplacer, le confronter, le questionner et tous de nous interroger. Alors voilà, c'était l'idée. Vous savez quoi? Ça a marché. Vous, elle, eux, nous, on se réjouit. Et on va dire que ça sent bon. Vous connaissez Médiamétrie, mesure d'audience à la rentrée. Très joli score pour l'émission. On se le dit, on a bondi. Alors bravo, alors merci. Ça rend optimiste pour l'après.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Alors, j'ai vu vos chiffres et waouh, super impressionné. Bravo.
Oh putain, je suis soulagé.
Mais oui, ça me fait plaisir, mais il faut quand même ajouter que la boutique reste ouverte, mais il y aura 2-3 ajustements.
Des ajustements, c'est-à-dire ?
Du bricole, voilà, faire un petit coup de neuf, quoi.
Bah oui, mais pourquoi pas, moi j'ai plein d'idées, hein. Ça fait un moment que je voudrais qu'on refasse le sous-sol, bah c'est peut-être l'occasion.
Ah, j'ai...
Parce qu'il y a plein de vieux trucs qui servent plus à rien dont on pourrait se débarrasser.
C'est vrai qu'il y a plein de vieux trucs qui servent plus à rien dont on pourrait se débarrasser, ouais.
Bah il y a tout le rétro gaming, les jeux d'occasion.
Et il y a vous aussi.
Comment ?
En tant que vieux truc qui sert plus à rien, peut-être que vous pourriez quitter la boutique. Pas en d'autres mots, ça dégage, quoi. Voilà, t'es viré, ça
dégage. Oh, la violence !
C'était violent, là. Je me rends pas compte.
Sérieusement ? Mais ça vous arracherait d'y mettre un tout petit peu d'humanité quand vous faites ça ?
Mais attends, t'étais au courant, toi ?
Bah oui, Arnaud, elle était au courant. Stéphanie, bonsoir Frédéric Sigrist.
Bonsoir Julia.
Vous êtes une voix bien connue de l'antenne d'Inter, mais par ailleurs, humoriste, comédien, en l'occurrence auteur de ce programme court Space Game, diffusé tous les dimanches sur France 3. On est dans la boutique de jeux vidéo d'Arnaud, donc ce vieux truc qu'on va dégager. C'est vous, donc... Enfin... Vous.
C'est Arnaud.
C'est Arnaud,
j'ai
bien évidemment.
Arnaud,
mais vous
qui me ressemble
Arnaud,
étrangement.
Évidemment. Il y a vous et deux vendeurs incarnés par Morgane Cadignan et Dedo. On est dans l'absurde, on est dans le potache, on est aussi dans des questions de société puisqu'on y parle parfois. Licenciement abusif, écologie et féminisme. Mais toujours, on est dans le geek. Est-ce que c'est pour le réhabiliter, ce geek?
Alors... On pourrait dire oui, le réhabiliter, mais en fait...
Le geek étant l'adorateur de jeux vidéo.
Voilà. Et en fait, non, c'est pas forcément pour le réhabiliter, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il se débrouille très bien. Aujourd'hui, il réalise des films, il tient quand même les rênes de toute l'industrie du cinéma, des séries, des jeux vidéo, etc. Mais c'est surtout que j'en suis un vieux, parce que je vais avoir 45 ans. Et voilà, c'était vraiment pour faire une série sur un univers qui est le mien et les conversations que j'ai pu avoir, qui des fois n'ont aucun sens,
mais
avec des gens qui sont comme moi.
Univers que vous avez mis du temps à assumer, et on le verra dans cette émission. Vous êtes aujourd'hui avec votre chronique dans le 5-7 de France Inter, avec votre podcast Blockbuster, le spécialiste maison de la pop culture. La pop culture, pour vous, c'est quoi ?
La pop culture, en fait, c'est tout ce que les grands esthètes n'ont pas encore qualifié de culture classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très facile de dire « Oh, Mozart, Molière, etc. » Et on a tendance à oublier qu'à l'époque où ces génies se sont mis à produire leurs œuvres, ils le faisaient souvent par commande, mais qu'à aucun moment, ils se sont dit « Tiens, ça va devenir un classique, c'est le temps qui décide de ça. » La culture populaire, c'est la culture du « ici » et maintenant, c'est-à-dire que ça utilise les codes de l'époque, ça dit des choses, des fois de manière un petit peu brute, pas forcément raffinée, et puis avec le temps, on revoit les choses et on se dit, ah bah tiens, par exemple, Alien, un film juste avec un extraterrestre dans un vaisseau, et bah c'est un film qui dit énormément de choses sur le féminisme. En fait, Ridley Scott savait déjà ce qu'il était en train de faire à l'époque. C'est une culture qui reste à comprendre et à valoriser, mais c'est surtout la culture de l'instant pour moi, la culture populaire.
Alors, dans votre one-man show super-héros, vous continuez à la défendre, cette culture-là. Vous parlez du pouvoir de la fiction, de l'intérêt supérieur de la fiction même, et de tous ces héros, super-héros qui, depuis tout petit, vous ont fait rêver et même vous ont transcendé, un peu comme si c'était vous en mieux. Mais vous, c'est qui ? Frédéric Sigrist, je vous tends ce miroir.
Oh là là !
Prenez le temps de vous regarder. Alors, vous faites une drôle de moue. Je vais essayer de la traduire en son. Ça donne... Ouais.
Bah, disons qu'en fait, j'évite ces moments gênants dès le matin où je me retrouve devant la glace parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire que plus le temps passe et plus je ressemble à la version anti-aise d'Homer Simpson.
Ça veut dire que vous êtes de ceux qui, avec les années, ont un rapport de plus en plus compliqué avec leurs reflets ?
En fait, j'ai toujours eu un rapport extrêmement compliqué avec ce que j'étais, pour la bonne et simple raison que je suis fils unique, métisse, et que j'ai toujours été dans des milieux qui étaient majoritairement différents de moi. Et donc, si jamais on m'avait demandé de me dessiner quand j'étais enfant, je me serais dessiné blanc, rose, avec des cheveux blonds, alors qu'en fait, j'avais les cheveux frisés. Oui, j'avais des cheveux.
Ah oui,
plein de cheveux.
C'est étonnant.
Plein,
on dirait pas comme
ouais,
ça.
J'en avais plein, plein. J'étais bien plus foncé. J'étais dans une école de garçons blancs, un petit peu bourgeois. Et donc, j'ai toujours eu un rapport un peu ambigu avec mon apparence et avec ce qui constituait mon ADN. Et puis, en plus, après, à l'adolescence, je suis devenu un petit gros. Donc, c'était...
Vous n'avez pas arrangé votre cas.
Non, voilà, non, vraiment, c'était compliqué.
C'est votre histoire que vous allez nous raconter ce soir avec tous nos super-héros du soir, à la technique Arnaud Caillet, à la réalisation Marianne Écrimbaud, Ophélie Vivier, chargée de programmation. Et lui aussi s'est rêvé un jour fils d'extraterrestre. Il se faisait appeler Raël San, épris de justice, avec comme une envie de régler des comptes, un masque et une mèche. Mais ça, c'était avant. Maintenant, c'est Raël San sur France Inter.
Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. J'habitais dans une ville de merde avec la tour Eiffel dedans, où les gens sont tristes et pressés, où les gens pleurent en marchant. Mais je viens de prendre une maison près de Caen, où ma famille passe les dimanches. Ma grand-mère part à la messe pendant que ma nièce regarde les anges. En chaussons dans mes crocs, j'emmène ma zouze au mini-golf. On vit avant d'avoir des gosses, ouais. Ensemble comme alcool et clopes, j'm'en branle, j'écoute que de la K-pop. Trottinette électrique de cross, ouais. Mon meilleur pote vient faire de la boxe, fait que de me faire péter la gueule. On trouve les gars parlent de vrais trucs, j'en la vérité sur les meufs. Je me lève à 8h pour écrire, je suis clairement pas un vrai rappeur. Soirée karaoké, chante au DD, Ademo c'est ma sœur. Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour.
Seul avec du monde autour, et je me demande si cette sensation-là, on l'a pas tous eue un jour. Vous nous direz, Frédéric Sigrist, si vous l'avez partagé. Comédien, humoriste, auteur et grand défenseur de la possibilité de rêver, vous êtes notre invité.
France Inter. En marge.
Avec vous, tout commence le 27 novembre 77 à la maternité de Nancy. Vous n'êtes pas scorpion à quelques jours près, c'est votre seul défaut, sinon ça va. Enfant unique, vous vivez avec votre mère Evelyne dans ses appartements HLM où les murs sont de papier et où le monde autour, celui des voisins, s'invite un peu tous les jours. Dans le salon, ça résonne fort. Votre mère n'aime pas les meubles, pas les microbes non plus. Des formations professionnelles, elle est aide-soignante, alors elle désinfecte tout et plusieurs fois par jour. L'appartement sent l'eau de Javel et elle, votre mère, c'est une warrior, dites-vous, particulièrement efficace en temps de guerre. Elle fait la guerre contre quoi ?
Contre la vie et les injonctions. Mais en fait, ma mère est l'idée même que je me fais d'une féministe. Sauf que si jamais je lui disais ça, elle me dit « Ah non, Ah non, ah, hors de question. Hors de question, vraiment. Alors qu'en fait, toute sa vie est.
Un combat,
c'est ça, c'est un énorme leg au féminisme, c'est-à-dire qu'elle a, elle n'a jamais aimé qu'on lui dise c'est ta place et il faut que tu la gardes. Elle va toujours faire ce qu'elle a envie de faire. Elle l'a fait pendant des années.
Indépendante, autonome.
Indépendante, ouais. Voilà. Ramener un Antillais dans une famille lorraine qui n'était pas particulièrement progressiste sur les métissages et les cultures. Quand elle est rentrée à l'hôpital, c'est quelqu'un qui a un contact
pour travailler, vous voulez dire.
Pour travailler, oui. Qui a un contact avec les malades et avec ses collègues de travail qui est absolument hallucinant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, tu peux être sûr que si jamais il y a une personne qui a besoin d'un coup de main, une vieille dame ou ce genre de choses, elle sera là pour lui filer un coup de main. Parce qu'elle est vraiment dans le care, comme on le nomme aujourd'hui. Il faut qu'elle s'occupe de quelqu'un.
À 6 ans, la Warrior vous emmène voir la guerre sur grand écran. Pas n'importe laquelle, hein, dans les étoiles, elle se passe. C'est le retour du Jedi. Et pour vous, Frédéric Sigrist, plus rien ne sera jamais comme avant. C'est quoi ce film quand vous le voyez ?
Oh, mais même le thème de John Williams, c'est magique parce qu'en fait, pour moi, c'est. Déjà, c'est ce que je dis dans mon spectacle, j'ai rien compris. Parce que Le Retour du Jedi, c'est le troisième de la trilogie originelle. Donc, moi, je n'avais pas vu les deux premiers. Donc, et ça commence, il y a deux droïdes, R2-D2 et C-3PO, qui discutent comme ça sur une planète désertique. On se retrouve dans la cour de Jabba le Hutt, il n'y a que des acteurs avec des masques en latex, il n'y a que des monstres. Jabba le Hutt, qui est cette image géante qui tient la princesse Leia en chaîne. Et il y a Luke Skywalker qui arrive avec sa robe de bure, qui a l'air de maîtriser tout ça. Et vraiment, lui, c'est un mardi. C'est vraiment, il gère ça, ça va tranquille. Voilà. Ça n'a pas l'air de le choquer, il dit « Rendez-moi le capitaine Han Solo ». Je dis « Qui c'est ?» Et en fait, je comprends qu'en fait, il est prisonnier de son cercueil de carbonite. Mais en fait, tout ça m'emmène ailleurs. Et soudain, je me dis « Mais en fait, on a le droit d'aller aussi loin, on a le droit de voir des choses et d'inventer des choses de ce genre. » Et je trouve que souvent, ce qui... pour moi, définit l'humain, c'est sa capacité à aller très loin dans l'art de raconter des histoires et de se raconter des histoires. Et en fait, cette plongée dans l'imaginaire, ça m'a offert le choix. Le choix de pouvoir m'évader, même quand on est dans des prisons fermées.
Et après le Jedi, il y aura Alien, il y aura Indiana Jones, les mangas que vous décalquez jusqu'à en trouer le papier, puis des comics jusqu'à pas d'heure, des jeux vidéo jusqu'à plus soif. Faut dire, vous êtes enfant unique.
Oui.
Et votre mère travaille la nuit, ça veut dire que ça occupe vos nuits aussi, ça.
Oui,
vous êtes
en fait,
moins seul.
Je suis moins seul, mais alors c'est très bizarre parce que je n'ai jamais souffert de la solitude. Et même encore aujourd'hui, c'est vraiment pas quelque chose... l'idée de vacances, entre guillemets, idéale pour moi, des fois ça peut se limiter à rester 15 jours les volets fermés, à jouer à la console, lire et à ne parler à personne. Vraiment, c'est... même quand on est tout seul et quand on lit un livre, quand on regarde un dessin animé, un film ou tout ça, j'ai une conversation. Mais j'ai une conversation avec l'auteur qui est derrière tout ça, c'est-à-dire qu'il m'en dit autant sur ce qui compte pour lui. Et donc, derrière les fictions, il y a toujours un auteur qui vous parle. Donc, en fait, vous n'êtes jamais vraiment tout seul.
Ouais, en l'occurrence, pardon pour ma psychanalyse à deux balles, mais dans ce Retour du Jedi, il y a un psychanalyste qui vous parle peut-être un peu, parce que si j'ai bien tout suivi, il y a une histoire de recherche de père qu'on va aller chercher du côté obscur de la Force et qu'on va essayer de ramener.
Ah bah.
Il est où votre père au moment où Evelyne vous emmène au cinéma? Il est où Raymond?
Alors, Raymond, il est arrivé des Antilles à la fin des années... milieu des années 70. C'est l'époque du Boumidom, où il y a beaucoup de gens des Antilles qui viennent travailler en métropole. Et lui, il arrive en Lorraine. Et je pense que il devait être soit avec ses amis avec lesquels il faisait du saxo, parce qu'il avait des velléités d'être artiste, slash footballeur, slash disc jockey, slash plein de choses.
Et dans la vraie vie, il faisait quoi ?
Il a travaillé un petit peu dans une entreprise qui fabriquait des tondeuses et tout ça, et puis qui a fait faillite parce que c'était vraiment la fin aussi de tout le milieu industriel de l'Est de la France. Il s'est retrouvé au chômage et il n'a jamais été très véhément pour en trouver un autre, parce que la métropole était forcément très raciste et que s'il n'avait pas de travail, c'est parce que
c'était à cause de ça.
C'est parce qu'il il était noir.
Sur scène, vous dites qu'entre vos parents, c'était une erreur de casting. Ça veut dire que ça criait beaucoup à la maison?
Bah, c'est-à-dire que ma mère qui gérait énormément de choses, qui gérait tout en fait, hein, qui travaillait, qui payait le loyer, qui me nourrissait, m'habillait, venait me chercher, etc. Je pense qu'il y a plein de moments, aujourd'hui on appelle ça la charge mentale, ma mère c'était une centrale nucléaire mentale. Et donc au bout d'un moment elle voulait dire, ça serait peut-être bien que tu prennes un petit peu ta part. Or, mon père était du genre à vraiment juste avoir un regard. Et il pouvait être très effrayant parce que c'était quelqu'un qui pouvait être très, très dur. Et c'était jamais dans les cris. C'était pas quelqu'un qui criait. Mais il y avait des regards qui trompaient pas et on savait quand le moment pouvait vriller. Mais donc, très vite, elle l'a, quand j'avais 9-10 ans, elle l'a mis à la porte. Mais ça a toujours été un individu très compliqué. Et après, quand j'ai rencontré sa mère des Antilles, j'ai compris beaucoup plus de choses. Parce qu'en fait, son propre père à lui était aussi
compliqué.
Quelqu'un de très très compliqué. Et en fait, il y avait toute une chaîne.
C'est ça.
De
toute façon, la violence, ça se transmet.
Voilà.
Hein,
d'hommes taciturnes, violents. Et voilà, il a fallu que moi-même, je fasse un travail là-dessus pour me dire, bon, il faut que ça s'arrête.
Pour défaire de cette violence-là, de couper l'héritage, c'est ça?
Oui.
Le refuser, l'héritage. Et c'est donc cet enfant-là qui se retrouve dans une école privée catholique.
Oui.
Ça se passe comment entre elle et vous? Entre l'école catholique et vous?
De manière assez drôle, parce que déjà je suis dans une école que de garçons, donc c'est aussi des gens qui sont complètement fans comme moi des dessins animés de Récréa 2, de Capitaine Flamme, Albator, Ulysse 31 et tout ça, Olivier Tom, donc il y a un rapport très shonen, neketsu, c'est la bagarre, on fait la bagarre tout le temps, donc là-dessus je suis très content. Et donc je suis déjà très 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 parti dans l'imaginaire, et les profs de cette école ont... Et c'est bien d'avoir de l'imaginaire, Frédéric, mais il faut un petit peu le canaliser.
Il y a aussi des tables de multiplication, quoi.
Oui, mais alors ça, j'ai jamais compris. Et même encore aujourd'hui, vraiment, les maths, je comprends pas. Et quand je découvre le pendant théologique de l'école catholique, c'est-à-dire la vie de Jésus, parce qu'il y avait catéchisme et tout ça, et moi, tous mes copains y allaient, donc je voulais y aller aussi. Je voulais voir ce que c'était. Je découvre la vie de Jésus, mais ça ressemble vachement à mes histoires de Superman, etc. Bon, sauf qu'il a décidé de jouer la victime, Jésus, mais il a des super pouvoirs dans ma tête. Et donc, je fais une sorte de transfert et je commence à poser des questions comme ça qui ont tendance à énerver le curé qui fait cours et qui me dit au bout d'un moment, toi, je veux plus te voir en catéchisme parce que tu perturbes les autres.
Vos questions sont sincères, mais les profs prennent ça pour... Pardon pour l'expression, mais pour du foutage de gueule.
Oui, complètement.
C'est ça.
Alors que moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi la différence entre
Jésus et
un super-héros ? Je viens de découvrir une histoire où t'as des parents, Jorel, et qu'envoient leur enfant sur Terre et il a des super-pouvoirs, et Moïse, qui coupe la mer en deux. Je veux dire,
On le voit, votre imaginaire vous nourrit toujours, Frédéric Sigrist. Il vous accompagne, peut-être même vous sauve. Allez savoir, au mur de votre chambre, vous avez des posters de Cindy Crawford sur votre table de chevet, donc la Bible et les X-Men dans votre magnétocassette. Oui, oui. Il est là, évidemment, le King of Pop. Mais on arrête l'interview, on écoute juste la chanson. Non, c'est pas vrai, parce que vous avez plein de choses à raconter. Ça, pour vous, c'est quoi? Michael Jackson, I Wanna Be Started Something.
Ah, c'est... Michael Jackson, c'était toute ma vie quand j'étais enfant et même adolescent. C'est... Parce que justement, ça rejoint ce que je disais sur l'incarnation de la différence. Je crois que c'est le premier artiste, ça je l'ai compris a posteriori, qui m'a fait prendre conscience qu'on pouvait être quelqu'un en ayant une teinte de peau différente. Parce qu'il
La sienne, elle était très différente de tout le monde, la teinte de peau.
Il a commencé,
c'est une teinte de peau que personne n'a jamais eue.
Il a commencé beaucoup plus foncé. Voilà. Et en fait... je me suis dit peut-être que c'était une sorte de bon au lieu de passer directement du côté noir antillais de mon père, qui était, il m'a créé un intermédiaire. Et, ouais. Et puis voilà, je le trouvais phénoménal. C'est-à-dire que moi, j'ai vu Thriller, c'était à l'époque où l'émission Les Enfants du Rock. Et ça passait en exclusivité. Et je me souviens, ma mère m'avait accueilli dans son lit pour qu'on puisse regarder. J'ai vu le clip de Thriller qui m'a terrorisé.
Incroyable.
Terrorisé, ouais. Parce qu'il se transforme en loup-garou.
Et vous dansiez?
Je dansais, évidemment, ouais. Je dansais parce que je vivais dans un quartier en plus où le breakdance, le hip-hop et tout ça s'est développé beaucoup plus rapidement que dans le reste de la France. Et j'avais des velléités de danse hip-hop. Et donc Michael Jackson, le moonwalk, toutes les chorégraphies qu'il faisait avec ses danseurs, je tentais de les reproduire dans ma chambre. Mmh. Et comme en plus à l'adolescence, j'ai commencé à être un petit peu rondouillard, je me suis dit, tiens, je vais perdre du poids, je vais faire comme Flashdance, je vais danser dans ma chambre en suant. Et puis je vais faire ce que je vois dans les clips. Et j'ai voulu faire un salto dans ma chambre sur du carrelage. J'ai fait le salto, mais en tombant, mon genou droit a pété. Évidemment, comme je faisais ma séance sportive, j'étais en slip, donc il faut imaginer un gros ado métis en sueur, en slip, qui se ramasse avec la jambe en vrac comme ça. J'étais par terre, Maman! Et là, il y a ma mère qui arrive et qui me regarde, qui fout par terre. J'ai dit, Et elle dit, oui, je suis le con. Et puis elle repart. Et moi, je suis toujours par terre. Et en fait, elle revient parce qu'elle m'entendait crier quand même depuis un certain temps. Et puis là, elle voit que j'avais la jambe qui était qui avait un drôle d'angle. Et donc, voilà, ligament en vrac, etc. Et ça a été le premier épisode d'une longue histoire d'amour entre mon genou et moi, Michael Jackson.
Un autre épisode, voilà. Peut-être un petit peu plus tard. Les filles, c'est pas trop ça à l'époque. Vous faites partie de ces hommes, dites-vous, qui ont longtemps été en couple tout seuls.
Oui.
Alors, il y aurait bien eu Élodie Lagrange, la petite brune qui faisait du hurleur. Ouais, il y a eu un baiser, le premier, un vrai, sauf que c'était un gage.
Oui.
On va dire que ça compte pas.
Ouais. Ça compte pas. Ça compte pas, mais moi, même si j'étais une punition. À l'époque, j'assumais totalement mon statut de punition. Parce que j'explique aux auditeurs, on faisait des courses en roller et celle qui avait perdu était obligée de m'embrasser. Et Élodie a perdu, donc elle m'a fait un smack. Mais moi, effectivement, j'étais peut-être un gage, mais le gage était très content.
Mais heureusement. Frédéric Sigrist, tout à coup, un autre super-héros débarque dans votre vie. Il s'appelle Molière.
Comment se porte ton malade ?
Je n'arrive à rien. Je suis sec. Je suis vite. Je griffonne, je gribouille. Je fais du charabia. Dès la fin de l'acte 1, je suis à bout. La scène entre Toinette et le malade m'échappe. Veux-tu que je te dise ? Je suis un pillard. Je n'ai rien inventé, jamais. Je n'en suis pas capable. Même si je l'étais, tout s'y oppose. Les contraintes, le temps.
Philippe Cobert et Joséphine de Rennes dans le Molière d'Ariane Nouchkin. Que représente Nouchkin pour vous ? Frédéric Sigrist.
Ariane Mouchkine, c'est le théâtre du soleil, parce que le théâtre est vraiment arrivé, mais comme un super-héros dans mon existence. Ouais. Parce que vraiment, jusqu'à ma deuxième, troisième, parce que j'ai redoublé de nombre. J'aimais beaucoup l'école, hein. J'aimais y passer du temps. J'avais un CV,
un petit CV.
Scolaire qui était assez intéressant.
Conséquent.
Lors de ma première, troisième, on nous explique que j'ai la possibilité de faire un stage au lycée Chopin à Nancy. Nancy, déjà, alors moi j'habitais Vendôme, Nancy c'est les bourgeoises. Et quand je vais faire ce stage-là, alors déjà quand j'annonce mon prof, il dit non mais attendez Cyrus, c'est pas possible, enfin qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Je dis non mais moi le mot théâtre me plaisait bien. Et quand j'arrive, je vois un cours où tous les élèves sont debout, parlent à une prof qui s'appelait Françoise Valence, et il y avait aussi plein de comédiens de la DRAC qui travaillaient avec le Centre National Dramatique de Nancy, qui venaient faire des interventions en cours. Et je les vois qui parlent avec les élèves et qui écoutent ce qu'ils ont à dire et ils disent, c'est ça, c'est bien, est-ce que tu le personnage là, comment tu le verrais et tout. Et je me dis, mais attendez, on a le droit de parler ici, on n'est pas censuré, on n'est pas arrêté.
On est considéré, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir une pensée ou d'avoir un avis.
Exactement. Et moi, dans ma tête, je me dis, oh, c'est formidable, je veux faire ça. Je reviens dans mon collège à mon plaisir, j'explique que je veux faire du théâtre, et là, évidemment, on dit non. Parce que eux, c'est des profs, ils savent très bien qu'en plus, il y a un proviseur avec une moyenne du bac à tenir, et disent jamais aucun proviseur de France et de Navarre voudrait un élève comme vous dans son établissement, parce que vous allez faire chuter la moyenne, c'est évident. Mais c'était sur concours, c'est-à-dire qu'il fallait passer une audition, il y avait 2500 élèves, et ils en prenaient 25.
Et... Vous ressentez quoi sur scène ?
Ah, je suis chez moi.
C'est vrai.
Je suis chez moi. Parce qu'en fait, comme l'imaginaire a toujours eu un impact presque plus important que le réel, je trouve que ce qui est intéressant, c'est pas ce que la nature me donne. C'est-à-dire que ça, c'est concret. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous, humains, on peut en faire. Mmh. Et sur un plateau, je peux être ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Je peux faire atterrir un avion, même s'il est pas là. Et donc, je trouve que c'est vraiment ça qui caractérise l'humanité, notre capacité à créer quelque chose à partir de rien. Et donc, quand je découvre le théâtre, et Molière, je découvre que Molière, quand il a écrit ses pièces, il avait pour folle ambition de corriger les vices de la société par le théâtre. Et là, forcément, comme j'ai eu cette enfance nourrie par des super-héros, que j'ai le côté très moraliste qui s'est développé aussi avec la religion, c'est que moi, je le sais, même encore aujourd'hui, je suis quelqu'un de très très manichéen. C'est-à-dire que il y a le bien,
mais
il y a
le mal. Mais les super-héros, c'est ça aussi.
Oui,
c'est
oui,
l'idée c'est de rendre la justice.
Hasard, si je fais des chroniques sur France Inter, c'est que cette idée de moraliste, j'ai trouvé le meilleur endroit pour pouvoir continuer. Je suis pas prêcheur, mais c'est pareil. Forcément, quand je découvre qu'on peut aussi essayer de changer les choses via des textes, via le théâtre.
Et donc le feu sacré, vous l'avez. 25 élèves sont retenus sur 600 candidats. Vous êtes dedans, vous poursuivez avec une section théâtre jusqu'au bac que vous avez avec mention à la fac, section médiation culturelle et communication. Vous épatez par vos exposés sur Star Trek et puis vous enchaînez par le Conservatoire de Nancy, vous jouez Brecht, vous jouez Coltès, vous vous mettez à rêver les jouer sur scène. Alors ça ne se passe pas vraiment comme ça, donc vous écrivez vos propres histoires. Quoi ? Faute de rôle au théâtre ?
Oui, même si c'est un espace de liberté, le théâtre, c'est aussi un espace d'assignement à résidence.
Ouais.
C'est-à-dire que tu ressembles à ça. Et les metteurs en scène, les réalisateurs, les directeurs de casting.
Tu ressembles à un grand noir, donc on donne Othello.
Donc tu joueras
Othello et puis c'est tout.
Et en plus, moi j'ai un problème. Le problème, je mets des gros guillemets, mais c'est que je suis métisse. Donc je suis pas suffisamment noir pour jouer Othello ou pour jouer dans la solitude des champs de coton de Coltès. Mais en même temps, je suis pas non plus suffisamment beau pour qu'il y ait les fantasmes d'un Peter Brook sur l'homme noir, noble, tel qu'il a été conçu par une grande partie du théâtre contemporain des années 80. Donc je suis dans une sorte d'entre-deux. Tu vas faire un figurant dans Julie Lescaut, tu vas vendre de la drogue ou tu vas faire un agent de sécurité. Et donc, je commence à écrire des textes, mais sans dire que c'est moi qui les ai écrits, parce que j'avais très vite compris en fait qu'il y a une partie d'esbrouf là-dedans. Et je teste mes textes en atelier de comédien en disant que c'est un auteur polonais. Et donc, je donne les textes, et des fois, ils sont joués aussi par d'autres comédiens qui sont là. Et donc, ils jouent les scènes que j'ai écrites, et j'entends les comédiens qui les met en scène, ils disent « Alors là, clairement, l'auteur, on reconnaît bien l'âme slave. » Et donc, moi, voilà, je suis de Nancy, mais c'est quand même pas tant à l'Est que ça, quoi. Et je me dis « Mais en fait, ça passe !» Et tout le monde parle très sérieusement de ce que j'ai écrit, en disant « Oui, mais l'auteur, il a voulu dire ça. » Et moi, je suis « Ah bon ?»
Et donc, vous y prenez goût.
Et j'y prends
goût. Et en 97 à 20 ans, vous poussez le cran d'après, vous écrivez votre premier seul en scène à Abécédaire d'une fin de siècle, spectacle qui durera 2h40.
Oui.
Vous apprenez à resserrer, à ellipser, à recentrer. Comme beaucoup, vous gamellerez, mais vous remonterez, réessayerez, retomberez. Vous vous relèverez encore sur votre route. Vous trouverez quelques bonnes fées, des portes fermées, des mains tendues, l'inattendu et un petit Gilbert Montagnier. Si, ce sera juste après Bowie et Mercury Under Pressure. Allez, je me tais. We'll be right back.
Under Pressure, l'un des duos cultes de ce tout début des années 80. Elle vous ramène où, cette chanson-là, Frédéric Sigrist?
C'est pour moi ma définition même de ce qu'est le génie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont laborieux, catégorie dans laquelle je me range très facilement, et il y a des génies. Et Bowie et Mercury, la genèse de ce morceau, quand on sait que c'est une journée, ils enregistrent un titre à Montreux en Suisse et ils disent non, c'est pas bien, on va en écrire un autre, et ils écrivent ça en une journée. Au bout d'un moment, je pense que si jamais t'es avec ton ukulélé chez toi et que tu te dis ça fait 6 mois que je m'entraîne et que t'entends cette histoire, tu te dis soit t'arrêtes, soit tu te dis bon bah voilà quoi, là on a affaire à des génies.
La saison 4 de Space Game, votre programme court, a démarré sur France 3. Votre one man show super héros est en tournée et nous on vous suit là où tout, disons pas mal de choses ont commencé.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Frédéric, faut qu'on parle. C'est-à-dire qu'on a fait un petit saut, on va dire qualitatif, hein, entre le Bowie Mercury et ce qu'on entend là.
Oui.
Il se passe quoi dans votre cerveau? Il s'est passé quoi dans votre vie? Qu'est-ce que ce Gilbert Montagnier des tropiques?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il faut imaginer donc ce petit garçon.
C'est marrant, était... vous avez un air contrit là. Tout à
mais oui, oui, mais parce qu'en fait c'est.
Mais non.
En fait, le j'ai compris ce que c'est qu'être populaire à ce moment-là. C'est-à-dire que des médias populaires, j'ai compris. C'est-à-dire que moi, je sortais de théâtre avec Brecht, Coltès, etc. Vraiment une idée du raffinement et du théâtre subventionné très très forte. Et j'écris mon premier spectacle qui était encore baigné aussi de tout ce que j'avais pu voir de seul en scène. Je faisais pas de one man show, moi je faisais du seul en scène.
Oui, pardon. Hein.
Attention, vraiment.
Pardon,
c'était. Excusez-moi. Et ça fait 2h30, c'est pas 55 minutes. On n'est pas dans une logique mercantile comme ça. Et soudain, il y a un chasseur de tête du club Méditerranée qui me voit. Lors d'un festival de où je faisais un extrait de mon spectacle et qui me dit mais on recherche des gens comme vous pour le club Méditerranée, et donc il m'envoie à Pompadour en Corrèze où je suis formé par Jean-Loup Chaffre et Jean-Loup de Tapia. Au passage, en vacances, je vois François Hollande et Ségolène Royal. François Hollande bourré comme un coin en train de chanter des chansons paillardes avec Ségolène Royal qui court partout dans le centre pour essayer de récupérer son gosse, et c'était ma première rencontre avec les politiciens, c'était et à l'issue de cette semaine à Pompadour, on me dit bah écoute, c'est parfait, je pense que tu peux faire un très bon animateur, on va t'envoyer à Dabalaya au Portugal. Et donc moi j'arrive toujours vraiment pieux, encore en train de lire la Bible, etc., tout en ayant des velléités de devenir un grand acteur pour Peter Brook. Et je me retrouve au Club Méditerranée à faire des crazy signs au bord de la piscine.
Crazy signs, c'est...
C'est des danses. Pendant l'apéro, on fait des crazy signs. On a un micro, il y a une bande-son, on fait « Allez, tout le monde debout, allez !» À droite, à gauche, en haut, et donc, en bas. Et je deviens complètement fou. Mais complètement fou pendant 8 mois, parce que forcément, moi, il y a une sorte de fracture qui se fait dans mon cerveau, parce que tous les soirs, je pleure dans ma chambre. C'est la première fois que je quitte Vendeuvre, je suis tout seul au Portugal.
Et donc, pardon, j'ouvre le tiroir à ce moment-là, mais ce qui est très compliqué à vivre pour vous, c'est que, par ailleurs, on ne l'a pas encore dit, mais à l'adolescence, vous êtes devenu mormon.
Oui.
Votre mère l'était devenue parce qu'elle avait eu en réa comme patient un missionnaire mormon. Mmh. Vous l'avez suivi, elle, à l'église, et tout à coup, hop! Révélation et un peu d'hormones aussi, c'est ça?
Mais oui, alors déjà, je sympathise avec quelqu'un qui est devenu un de mes amis d'enfance, qui s'appelle Jocelyn. Mais surtout, je tombe amoureux de sa sœur. Et du coup, dans ma tête, je pense que ça a beaucoup aidé à ma foi.
À la révélation spirituelle.
Oui, oui. Oui, en fait, maintenant, je sais que ma foi, c'était ma libido, en fait. Et je pense que c'est valable pour beaucoup de gens. Ce qui fait que
sauf que foi ou libido, ça vous emmène assez loin, parce que vous êtes diacre, puis
prêtre,
vous êtes vraiment...
Puis j'y crois.
Vous êtes vraiment quoi?
Je bois plus de café, pas d'alcool, pas de sexe avant le mariage, mais ça c'était formidable parce que les filles m'aidaient depuis très longtemps à tenir cet engagement.
Mais du coup, le Club Med, c'est...
Ah mais c'est Sodome et Gomorre.
C'est un choc terrible pour vous.
C'est ça qui est rigolo à posteriori, c'est que je pense qu'on pouvait pas soigner cet aveuglement ou cette radicalisation qui est en train de se faire dans ma tête de manière moins violente que le Club Méditerranée, parce que ça a été tout l'inverse. J'ai découvert tout ce qu'on pouvait...
Après 8 mois de cette schizophrénie avec beaucoup de guillemets, vous revenez en France, vous êtes dans quel état franchement?
Eh ben, alors déjà, je suis dans un sale état parce que il y avait un spectacle qui s'appelait Paris 2000, qui était un spectacle où on faisait des chorégraphies et le danseur de hip-hop qui sommeille en moi et qui aurait mieux fait de continuer à dormir s'est réveillé et dit mais moi je veux faire un solo, je veux faire un solo et donc je saoule la chorégraphe et la régisseuse en chef toute la saison en disant mais non mais moi tu sais j'ai des bons restes hein et donc au bout d'un moment elle m'autorise à faire mon solo devant un séminaire de portugais qui travaillait pour je crois que c'était pour des faisaient des pneus et ils avaient loué donc le Club Med donc il y avait 800 portugais dans une salle comme ça et moi sur scène je commence à faire mon solo de danse hip-hop, je fais le salto et mon genou il refait la même chose. Et comme j'avais un pantalon baggy, un pantalon très large, les gens ne voient pas non plus que je suis par terre. Et donc, ils décident de me sortir en disant, oh, c'est pas vrai, l'animateur, il est toujours en train de faire le clown, quoi. Et donc, ils me prennent la jambe, je tombe dans les pommes, je me retrouve dans un hôpital avec un docteur, il me fait, t'as bon, tout obéi. Et ensuite, je suis rapatrié en France, où j'ai 10 mois de rééducation, des vis dans le genou, et là, je parle plus parce que je regarde le plafond, et c'est vraiment la déradicalisation totale.
Vous êtes de nouveau dans votre chambre d'ado, oui. Chez votre mère, parce que votre amoureuse, parce qu'entre-temps, oui, il y avait une première histoire d'amour. Hélène, en fait, n'a pas supporté, et on peut de loin comme ça se dire que on la comprend un petit peu.
Oui, et là vraiment, justement, moi je regarde le plafond, et grosso modo, je passe 10 mois à me dire, je vais être cru, mais je suis une merde. à tous les niveaux, alors, c'est ça que je me dis.
Hélène part faire l'école du Louvre à Paris, vous l'y rejoignez, déterminée à vous faire pardonner, vous y arrivez.
Oui.
Prouesse. J'y arrivais.
Je sais pas si c'est une prouesse ou si c'est vraiment elle qui a une grandeur d'âme. Mais oui, elle me redonne une chance. Toute la suite lui a donné raison. Mais
elle vous accueille dans son petit studio. Vous vous inscrivez au cours Virio pour reprendre vos études de théâtre et pour le financer, vous plongez dans un univers dont on pourrait dire qu'il est l'exact opposé du Club Med.
115 de Paris. Bonjour.
Allô, bonsoir, madame, s'il vous plaît, la 5000.
Il est 19h. C'est l'heure de pointe pour la dizaine d'écoutants mobilisés. Bientôt, il n'y aura plus aucune place à proposer.
Si vous pouvez rappeler demain dans l'après-midi vers 16h.
Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le 115 de Paris reçoit autour de 4 à 5 000
vous
appels
par jour. Vous restez 3 ans au SAMU social. En quoi ces 3 années ont pu nourrir, voire transformer l'homme mais aussi l'artiste que vous êtes?
C'est très simple en fait. De mon passage au SAMU social, j'ai quasiment failli arrêter mes velléités d'artiste. Parce qu'en fait, je trouvais, par rapport à ce que je voyais, quand je voyais en fait les mécanismes de déclassement social qui existaient, et le mal qu'on pouvait avoir à essayer d'aider ces gens à les réinsérer, il y a des claques que la vie donne qui sont trop violentes pour ça. Et au bout d'un moment, je me disais, mais quel est le sens d'aller sur scène et de dire des conneries quand il y a des gens qui vivent ça tout le temps?
Ouais, sauf que vous allez y retourner sur scène parce que le SAMU social, vous allez arrêter. Qu'est-ce qui fait que...
Et ben en fait, c'est l'incendie de l'hôtel Paris Opéra, parce que c'est le SAMU social travaillait...
En 2005,
voilà, qui travaillait avec beaucoup d'hôtels, d'hôteliers, marchands de sommeil, qui louent leurs chambres pour des familles, des gens qui sont demandeurs de recours, demandeurs d'asile, etc. Et en fait, il y a un hôtel qui brûle et il y a plus d'une vingtaine de personnes qui meurent dedans. Et je me retrouve le matin à regarder le programme informatique du 115 et à devoir noter les noms, parce qu'on est les seuls à avoir les noms des gens qui étaient dans cet hôtel avec les âges, avec leur vie qui apparaît sur un logiciel qui s'appelle le 4D, une sorte de logiciel très, très horrible quand on y réfléchit, c'est une sorte de Facebook de la précarité. Ça explique la vie de tous ces gens, pourquoi ils se retrouvent en situation. Et je me disais, là, il va y avoir forcément une prise de conscience de la société par rapport aux conditions d'accueil de ces gens-là, la grande exclusion. Et en fait, c'était le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui... fait, alors c'est pas lui directement, mais c'est des gens proches de lui qui font entendre, écoutez, c'est très simple, si vous voulez qu'il y ait moins de gens qui périssent dans ces hôtels, vous nous filez les noms quand ils sont en situation illégale, c'est-à-dire que quand ils n'ont pas encore eu leur permis qui a été prolongé, et puis nous on les expulse, comme ça fait, on s'arrange. Et je me dis, les gens, les organisations du SAMU social vont se mettre debout contre ça. Et en fait, non. Il y a eu une sorte d'accord tacite, genre on n'a pas le choix, ils nous demandent, donc on doit le faire. Et là, ça a été une sorte de dégoût et de colère, mais que comme j'en ai rarement eu. Et Hélène, une fois de plus, Jiminy Cricket, clairvoyante, me dit « Mais attends, utilise justement, cette arrête d'avoir ouais. toujours un pied dans une vie ou autre, et puis dans le métier, sans vraiment vouloir te confronter. Utilise cette colère pour en faire quelque chose sur scène. »
Et vous l'avez fait. Et comment vous l'avez fait sur scène? Vous l'avez fait à la radio, sur Europe et puis beaucoup sur France Inter. Sur scène, il y a eu une pièce, plusieurs one-man, ils ont marché, ils ont tourné et petit à petit, vous voilà, vous, ici. Entre-temps, vous avez pris quelques distances, je dirais, et intérieures et géographiques. La politique, vous avez arrêté d'en parler, ça a été longtemps votre matière première et vous êtes revenu jusqu'à vous. Vous qui êtes parti avec Hélène et les enfants à 40 km de Paris, on est bien avant le confinement. Entre-temps, ça, c'est un extrait de super-héros qu'on va entendre. Entre-temps, vous êtes devenu parent.
Parent, pour moi, c'est un rôle que ma femme et moi, on joue. Alors, c'est dans une production qui n'a pas de budget, hein, mais vraiment, je dis que de la merde, et puis elle aussi. Hein. Oh ! Tu sais, des fois, je m'entends, il y a des phrases qui sortent de ma bouche comme ça, je suis là, j'ai qu'est-ce que t'as dit, là ? Tu sais, on est à la table, je sais pas pourquoi, tu sais, il y a mes enfants qui mangent tranquillement, tout d'un coup, je vais être là, je sais pas, je leur fais « Eh, tes coudes !» Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est, tu dis, oh, attention, il est tard là, faut aller se coucher. Mais il n'y a pas école demain, mais il est tard. Je sais pas, des fois tu dis, allez à l'école, mais pourquoi? Je sais pas, parce qu'on peut pas vous garder, parce qu'il faut relancer la croissance du pays. Je sais pas, je fais semblant, je joue mon rôle, voilà. Mais c'est comme les fées dans les contes de fées, tu vois, si tu crois aux fées, elles existent, si tu te crois parent, t'es parent.
Extrait de super-héros au spectacle actuellement en tournée, un hommage au pouvoir de la fiction, toujours mieux que le réel hein, finalement. Être père dans la vraie vie, pas dans la fiction, c'est comment?
C'est la plus grande leçon qui ne finira jamais que j'ai jamais reçue de mon existence. Je pense que mes enfants m'apprennent autant de choses au jour le jour que je leur en apprends en fait. C'est vraiment du donnant-donnant. On pourrait imaginer comme ça que quand on a des enfants, on les voit à tort comme des sortes de vases vides qu'il faudrait remplir, alors qu'il y a déjà une part d'inné chez chacun d'eux qui est très singulier. Et donc ils viennent déjà avec un bagage. C'est sûr qu'ils peuvent développer des points communs avec vous parce qu'ils vivent avec vous. Donc des tournures de phrases, une manière de penser, etc. C'est toujours des sauts de la foi. Déjà, moi, j'ai commencé à avoir peur une fois que j'ai eu des parents. J'avais jamais peur avant.
Ah bon, vous êtes devenu parent?
Oui.
Pas une fois que vous avez eu des parents.
Enfin non, une fois que je suis devenu parent, j'ai appris ce qu'était la peur, alors qu'avant, j'avais jamais peur. Pour moi, quand ça n'engageait que moi, ça allait. Ouais. Mais maintenant, avec eux, je suis toujours dans une dimension de j'espère qu'on
ça va, aller.
Va vers quelque chose de bien.
Alors après, vous avez une paternité un peu, on va dire, spécifique ou singulière qui commence très très fort, puisque votre aîné, Elliot, qui a bientôt 14 ans aujourd'hui, est né grand prématuré. Ça veut dire pas mal d'hôpital, pas mal de rééducation, pas mal d'angoisse, de peur aussi pour les parents, des petites et des grandes difficultés au quotidien. Pour vous, 14 ans plus tard, au fond, ce parcours-là, ça a changé quoi à l'homme que vous êtes?
Tout. Je peux pas. Il y a pas une pierre de ma vie qui a pas été changée avec tout ce qui s'est passé. Parce que déjà c'était une des premières étapes de ma vie où je me suis retrouvé face à quelque chose que je pouvais pas maîtriser avec de la volonté. C'est-à-dire que en plus c'est arrivé 3 jours après le décès de mon père et voilà, on s'est retrouvé avec un bébé de 6 mois sous couveuse, il fait une hémorragie cérébrale, donc en fait personne ne nous dit s'il va survivre ou ce genre de choses, donc on était vraiment mais dans l'inconnu la plus totale, et même sur les séquelles ensuite, quand ils ont fini par nous dire non, finalement, il va vivre, mais on ne sait pas à quelle sauce vous allez être mangé, ouais. Parce qu'il va y avoir des séquelles, c'est sûr. Et en fait, chaque jour, on était, je crois, déjà, je pense qu'Eliott, il n'a pas dû toucher le sol avant plusieurs années. On le prenait dans les bras tout le temps, on regardait tout. Il était tout le temps accroché à nous comme ça. Puis il avait ses grands yeux noirs, etc. Le fait d'être intermittent du spectacle m'a permis aussi de me dégager beaucoup de temps pour pouvoir être avec lui aussi. Et avec Hélène, on l'a vraiment vu grandir comme ça, mais... On n'attendant rien du tout, vu qu'on ne savait pas du tout ce qu'il allait faire. Donc voilà, il y avait d'autres enfants de son âge qui marchaient déjà, lui il marchait pas, donc on savait pas, on le regardait juste, on était fascinés par
Est-ce
lui,
que ça
ses
libère aussi
de quelque chose, c'est-à-dire d'un certain nombre. Quand on a un enfant qui marche pas quand tous les autres marchent, j'imagine que ça peut être aussi angoissant que de se dire, bon, bah, après tout, on trace notre route à nous.
Et ben, en fait, ce qui m'a vraiment aidé, pour le coup, personnellement, je parlerai jamais au nom d'Hélène, qui elle a peut-être vécu les choses différemment de par son vécu. Mais moi, je sais que ce qui m'a aidé, c'est d'être mauvais à l'école, c'est d'être marginal, c'est d'être un métis dans une. C'est-à-dire que j'ai jamais fait ce qu'on attendait de moi. Donc en fait, j'allais pas demander à mon fils de faire ce que j'attendais de lui, vu que ça avait déjà été le cas. Donc j'étais beaucoup plus zen. Par rapport au fait de ne pas rentrer dans une norme, on les emmerde. De toute façon, il suffit juste de pouvoir développer sa narration pour qu'au bout d'un moment, ça ait du sens.
Alors, vous parlez de cette parentalité, de votre paternité dans ce spectacle super-héros. Il faut quand même préciser quelque chose. Vous l'avez écrit en plein confinement. Et puis surtout, alors que vous veniez de perdre votre troisième enfant à 8 mois de grossesse, hein, c'est ça. Le moteur de votre écriture, il est là. Est-ce qu'il est dans l'envie ou dans la nécessité de transformer la douleur, parce que sinon, sinon elle nous écrase.
Je fais pas partie des gens qui ont choisi le one man show pour dans d'un point de vue carriériste. Moi, j'écris parce que c'est impérieux. Je ne conçois pas d'aller sur scène si on n'a pas quelque chose à soit défendre, soit dire. La mort d'Iris a été quelque chose. Notre troisième enfant a été quelque chose de. C'est la chose la plus dur que j'ai eu à vivre, et on avait déjà eu la naissance d'Eliott qui avait été compliquée. Mais je me suis dit, si jamais j'utilise pas la fiction justement pour faire exister cet enfant pour moi, mais aussi pour les gens qui nous côtoient, parce que il était hors de question pour moi que ça devienne un tabou. Parce que quand on perd un enfant si jeune, très vite les proches comprennent quelques mois, quelques semaines, mais ensuite allez, on se remet à cheval et on n'en parlera plus jamais. Or, ça fait partie de la vie, et c'est quelque chose qu'on doit pouvoir évoquer. Je voulais pouvoir l'évoquer pour Eliott et Zélie, mais je voulais aussi l'évoquer par rapport au monde, pour que je me dise, voilà, par la fiction, j'ai pu donner un nom, une identité à cet enfant. Et comme je l'ai dit, pendant des années, j'ai été sauvé par des personnages qui n'existaient pas. C'est-à-dire que ce qui m'a fait supporter beaucoup de choses, ça a été les super-héros, qui n'existent pas. Et aujourd'hui, une des personnes qui me manque le plus, c'est une petite fille que j'ai jamais connue. Et en fait... Je peux pas m'empêcher de me dire qu'en plus c'est mon cerveau qui me joue des tours, parce que cette Iris qui est dans ma tête qui rigole de certaines choses que je vois dans ma tête jouer avec Eliott et Zélie, c'est pas comme ça que ça se serait passé y a plein de choses qui me font dire que ça n'aurait jamais été comme ça. C'est un fantasme, c'est une chimère que j'ai construite dans ma tête.
Oui. Mais vous le dites vous-même, la chimère, elle vaut mieux que le réel.
Voilà.
Quoi.
Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce spectacle. Et c'est vrai que ça a changé même mon rapport à la scène, mon rapport à la manière dont c'est pas un spectacle que je vais accepter de présenter dans un plateau d'humour comme ça. Non, parce que ça l'est pas vraiment. Aujourd'hui, je l'ai encore joué il y a 2 semaines à Mondeville. Le spectacle a fait 2 heures. Ça a été un moment formidable. Les gens, ils ont ri. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'à la fin, à chaque fois, il y a des hommes et des femmes qui viennent me voir et qui me disent, qui me prennent à part, qui me disent merci. Il m'est arrivé la même chose. Et c'est bien ça que je veux faire comprendre aux gens, c'est que c'est pas quelque chose de singulier, c'est qu'autour de vous, il y a plein de gens qui ont vécu exactement ce que j'ai vécu. Je ne suis pas, c'est pas exceptionnel. Ça arrive à plein de gens. Simplement, il y a une forme d'omerta, de tabou qui fait que, bah non, on veut pas en parler. Et pourquoi on n'en parlerait pas? Parce que ça veut pas dire qu'on veut s'arrêter là-dessus. Ça veut juste dire que ça fait aussi partie de l'existence et que ça peut donner vie à plein d'autres choses aussi. Donc, il faut que ça circule.
On va décoller une dernière fois avec vous, Frédéric Sigrist, dans un monde de Gollum, d'oreilles en pointe et d'anneaux. Un monde où les possibles seraient un peu plus riches. C'est le Seigneur des Anneaux, c'est la musique de Howard Shore. C'est la musique que vous choisiriez pour votre dernier tour de piste, un dernier coucou aux vivants et allez hop.
Oui.
Rideau.
Oui.
Là-dessus.
Mais parce que déjà, c'est Le Seigneur des Anneaux, c'est Howard Shore, et puis parce que je trouve que c'est une des musiques et un des films devant lequel je peux pleurer comme une madeleine, mais même à des moments où il faut pas pleurer. Hein. C'est-à-dire que juste les feux qui s'allument sur les montagnes pour prévenir le Rohan ou pour quand ils arrivent à Minas Tirith avec Gandalf qui traverse les rues comme ça avec son cheval, je pleure déjà. Gandalf qui parle à Pipin en lui disant mais oui, il dit mais on va mourir, mais peut-être, mais il y a autre chose après. Tout m'émeut énormément, et le point d'orgue quand Aragorn, les hobbits sont commencent à s'agenouiller comme ça devant lui, il dit non, you bow to no one, et c'est tout le monde qui s'agenouille devant ces petits hobbits qui ont juste fait ce qui leur semblait juste et qui n'étaient pas des héros. Moi, le personnage de Sam, c'est donc vraiment, oui, c'est cette musique, ce
c'est
film.
C'est la musique de votre enterrement.
Oui, oui.
Okay.
Oui.
Votre mort. Vous y pensez souvent ?
J'y pense depuis tout petit.
C'est vrai ?
J'y pense depuis tout... Oui, parce que tout ce que je fais, les spectacles et tout ça, c'est parce que je suis... Peut-être aussi de par mon passé religieux. Bon, depuis, j'ai largement perdu la foi, hein, mais je sais que...
Vous avez mis votre libido ailleurs.
Oui, j'ai mis ma libido ailleurs. Mais par contre, je sais que ça va s'arrêter. Et en plus, j'ai été confronté assez souvent au fait que ça pouvait s'arrêter n'importe quand. Et donc, autant faire en sorte que ce moment où on est là, il ait du sens, qu'on rit, qu'on s'amuse, qu'on teste des choses. Et voilà, moi, ça paraît très cucu, mais j'ai qu'une envie, c'est que les gens comprennent qu'au lieu de se prendre la tête, ça serait tellement mieux si on pouvait faire de ce petit instant qui nous est donné d'existence, d'en faire quelque chose de joyeux, et où on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais où on peut au moins essayer de comprendre tout le monde. Et donc, tout ce que j'ai fait cool vient de cette démarche.
Dans votre dernière demeure, comme on dit pudiquement, vous emporteriez un objet, serait lequel ? Vous l'avez là, avec vous ?
Oui.
Alors
j'espère qu'ils ont une batterie, c'est ma Nintendo Switch.
Parce qu'on ne sait jamais, tu as un malentendu, vous pouvez continuer à jouer.
Mais parce qu'en fait, où que j'aille...
Faites voir l'objet. Vous êtes un homme de radio, vous savez parler et faire en même temps.
Alors, mais le micro, je vais essayer
prenez le micro, voilà.
Sortir ça plus tôt. Voilà.
Voilà, elle est là.
C'est ma Switch. J'ouvre, elle est dans son petit coffret avec Evoli, un des Pokémon.
Très bien.
Voilà, parce qu'on partage cette passion des Pokémon. Et là, il y a toutes les cartouches de ma Switch. alors, il y en a aussi sur la carte SD, c'est-à-dire que je pense que je dois avoir une trentaine de jeux accessibles en permanence, alors que je n'ai pas le temps d'y jouer.
On sait jamais.
Il est absolument impossible que je parte de chez moi sans avoir une console de jeu.
Et donc impossible que vous partiez de la vie sans avoir votre console de jeu avec vous, parce qu'en plus si ça se trouve là-bas, vous aurez le temps. Quoi.
Oui, oui. Et puis même, je pense que si jamais il y a un au-delà, il y a forcément une salle d'arcade et on s'éclate.
Mais évidemment.
Évidemment.
Je lis votre épitaphe, Frédéric Sigrist. Le secret du bonheur, c'est. Et le reste de cet article est réservé à nos abonnés. Merci. Frédéric Sigrist, merci infiniment.
Merci
en marge, c'est terminé. Pour ce soir, on vous retrouve sur l'antenne dans le 5-7. Tous les vendredis, en tournée avec super-héros dans toute la France jusqu'en juin 2023. Tous les dimanches sur France 3, avant le 19-20, rendez-vous avec toute l'équipe de Space Game, votre programme court. Nous, on se retrouve en podcast, évidemment. Ah, je vous signale que, comme chaque samedi, c'est Djoubaka qui signe notre programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, toujours avec le même plaisir.